Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Face à l'info. Avec moi pour m'accompagner ce soir, Mathieu Bock-Côté, bonsoir.
Bonsoir.
Michel Taub, bonsoir. Charlotte Dornelas, bonsoir. Et Vincent Roy, bonsoir.
Bonsoir Élodie.
On commence dans un instant, mais tout de suite on fait le point sur l'actualité avec vous, Simon Guilin. Bonsoir Simon.
Bonsoir Élodie et bonsoir à tous. La fête continue ce soir à Marseille avec la flamme olympique bien sûr qui arrive au stade Vélodrome. Des milliers de personnes sont présentes pour voir Jean-Pierre Papin, l'un des héros de l'Olympique de Marseille, porter cette flamme. Qui va d'ailleurs parcourir plus de 10 000 km avant d'arriver à Paris le 26 juillet prochain. À un mois des élections européennes, Gabriel Attal s'est rendu en Bretagne aujourd'hui. Le Premier ministre était à Bréhan dans le Morbihan pour un échange avec les Français. Mais aussi pour tacler le Rassemblement National. Le RN, c'est l'organisation méthodique de la sortie de l'Union européenne, a affirmé cet après-midi le Premier ministre. Et puis c'est bien sûr l'événement ce soir à Paris, le concert de Taylor Swift à la Défense Arena. La chanteuse américaine démarre sa tournée européenne donc ce soir et certains fans campent depuis plusieurs jours déjà devant la salle. Sachez que je suis un grand fan de Taylor Swift et j'imagine qu'autour de cette table, il y en a aussi qui partagent mon avis.
Évidemment, Simon, petite dédicace. On aurait pu aller ensemble au concert, mais on va plutôt se concentrer pour l'instant sur Face à l'info. Merci beaucoup. Merci à vous, Simon. Au sommaire de ce Face à l'info, justement, avec vous, Mathieu, on parlera d'abord des Jeux Olympiques, puisque ça y est, la flamme est arrivée. Mais au-delà des belles images, de quoi l'olympisme est-il aujourd'hui le nom? Et si ce moment était l'occasion de repartir à zéro, de tourner une page, vous allez notamment nous montrer que les symboles mis en avant, par exemple certains porteurs de flammes, ou même les menus ne sont pas choisis au hasard et en disent peut-être plus long qu'on pourrait le penser. On parlera politique et de la France insoumise avec vous Michel Taub. Comment l'idéologie du mouvement a-t-elle évolué? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont abandonné finalement les classes populaires au profit de l'électorat des banlieues? Comment en est-on arrivé à cette stratégie clairement assumée? Est-ce un calcul payant? Vous répondrez à toutes ces questions. Vincent Roy, vous allez nous parler, vous, de littérature, ou plutôt du niveau de la littérature. Alors, on sait que globalement, le niveau général baisse, ça n'est plus une surprise, mais qu'en est-il de l'art en lui-même? Est-ce que les romanciers d'aujourd'hui sont au niveau de ceux d'autrefois? Qu'est-ce qui les anime? Vous allez nous éclairer. Nous sommes, vous le savez, le jeudi de l'Ascension, l'occasion de se pencher à la fois sur l'histoire de ce jour particulier et surtout de parler des jours fériés. Comment on a décidé, par exemple, que certains jours étaient fériés et d'autres non? Charlotte Dornelas vous expliquera tout. Et puis pour terminer, Mathieu, on se posera une question. Nos compatriotes se sentent-ils davantage français ou européens? Sondage Odoxa Blackbone pour le Figaro est sans appel, sans surprise, vous le verrez. En pleine journée de l'Europe et à un mois pile des élections européennes, ce sondage doit-il inquiéter les partis trop pro-européens? La construction européenne est-elle éternelle? On verra cela avec vous tout de suite. C'est donc Face à l'info. On commence donc avec vous, Mathieu, je le disais, puisque la flamme olympique, ça y est arrivée à Marseille. Ça a suscité une grande émotion. Certains veulent y voir un signe. Finalement, les Jeux olympiques vont bien se passer. Emmanuel Macron a même lancé une injonction à la fierté. Mais est-ce qu'un petit scepticisme est encore permis? Eh bien, c'est le thème de votre premier édito.
Un immense scepticisme. Un immense scepticisme.
Je m'y attendais.
Alors, il faut bien comprendre que le récit... Depuis 24 heures, c'est le récit enchanté. J'ai l'impression d'être contemporain de la fête de l'être suprême. Donc la révolution accouche de la fête désirée. Et là, tout le monde est obligé d'en rajouter dans l'émerveillement. Tout le monde est ébaubi, tout le monde est sous le signe de l'extase. Il suffit de lire le grand récit qui en est fait, par exemple, dans le quotidien officiel du régime Le Monde. qui nous racontait une fête merveilleuse qui permettait aux Français de se réconcilier tels qu'ils sont. Enfin, j'ajoute, ça s'amuse donc à peu près partout en fait. Partout, c'est on craignait le pire et finalement on a le meilleur. Dans le monde, notamment, je crois, on dit normalement, on parle de Marseille, parce que c'était à Marseille hier, on parle de Marseille sous le signe de la drogue, de la Kalachnikov, le narco-État, les violences. Aujourd'hui, enfin, on parle d'autre chose. Mais n'est-ce pas un aveu que de formuler les choses ainsi? Pour une fois, nous pourrons mettre la réalité en suspension. Demain, cela dit, sera le retour à la norme, à moins que les Olympiques aient une capacité d'effacement complètement des malheurs de notre monde. Cela dit, le moment où je serai genre honnête et joyeux. Honnête toujours, mais joyeux assez rarement. C'est dans l'arrivée du bateau. C'était magnifique. Ce bout-là, en fait, rappelez-vous au moment où la flamme a été pour la première fois vue. C'était très beau. C'est très beau là-bas. D'ailleurs, il n'y avait pas de rap. Je le note comme ça. Et là, oups, ça arrive dans le bateau. Et là, il y a quelque chose de splendide là-dedans. Et là, le spectacle, mise en scène commence. Et qu'est-ce qu'on voit? Le rappeur, je prends la peine de le dire parce que on comprend que là, c'est la mise en scène de comment la France veut-elle se projeter dans les temps à venir. Chaque petit élément de l'actualité symbolique des prochains mois est central parce que ça témoigne d'un imaginaire que l'on veut construire et imposer à tous. Et je pense qu'hier, cette séance de rap et ainsi de suite nous dit beaucoup sur ce qu'est la musique officielle du régime cette fois. C'est-à-dire, on voit il fut un temps, il y a très longtemps, où la musique française, c'était... On pourrait le dire Piaf, d'ailleurs on y reviendra, Brassens, Fatalis, et là aujourd'hui c'est un peu autre chose, disons ça comme
c'est
ça.
Cool.
Je vous laisse prononcer son nom.
Pardon.
Alors, ça a évolué. Évolué, en tout cas, ça a changé. Ensuite, revenons-y, et c'est important de le dire, c'est un moment de basculement, mais pensé comme tel. J'insiste parce que plusieurs, je reviendrai avec dans un instant, mais tous ceux qui font de l'ingénierie symbolique en ce moment nous disent on doit s'emparer de ces jeux pour être capable d'imposer un tournant à la France dans bien des domaines de l'existence. Alors, on connaît la critique de l'olympisme aujourd'hui, elle est convenue. L'olympisme, c'est la marchandisation du sport, c'est vrai. L'olympisme aujourd'hui a été confisqué par les grands lobbies sportifs et publicitaires mondialisés, c'est vrai. Mais l'essentiel est ailleurs, et pas seulement dans le QR code, bien qu'on... c'est pas sans importance non plus, nous y reviendrons. En fait, les Olympiques, dans la mesure où tous nous disent en ce moment, c'est le moment d'imposer des choix, c'est le moment d'imposer une nouvelle représentation de la France, c'est le moment de faire de vieille France table rase et d'imposer une nouvelle France, d'imposer une France nouvelle qui serait conforme à son époque. De ce point de vue, j'ai emprunté une formule à Klaus Schwab, qui est une personne recommandable à ce que... que j'en sais, monsieur de Davos, c'est important, qui parlait en d'autres temps du grand reset. Alors, la formule a été détournée de son sens originel au moment de la COVID, on le sait, mais il y a quelque chose dans cette idée du grand reset qui est intéressante parce que ça nous dit comment les élites mondialisées, je pense qu'on peut reconnaître à Davos le statut de capitale des élites mondialisées, on voit que finalement, l'idée du grand reset, c'est ce qui les obsède. C'est la possibilité de réinitialiser notre monde, de le délivrer des pesanteurs du passé, de le délivrer des traditions vieillies, probablement moisies, de le délivrer d'un passé trop lourd. Et dès lors, les grands événements internationaux comme les Olympiques, mais aussi comme les grandes autres fêtes sportives, mais pas seulement, les grands événements internationaux comme les Olympiques permettent justement d'accélérer cette mise à jour de nos sociétés, cette mise à jour symbolique. Et de ce point de vue, dans les semaines qui vont venir, ce qu'on va voir, c'est que les tendances les plus progressistes, et on sait que c'est très, très bien le progressisme, les tendances les plus progressistes seront mises de l'avant dans tous les domaines de l'existence pour nous expliquer quelle France nouvelle doit naître au terme de ces Jeux.
Et justement, est-ce que vous avez des exemples en tête qui concrétisent en fait cette inquiétude?
Des tonnes.
Juste quelques-uns peut-être pour commencer.
On va y aller avec l'exemple de base pour ne pas l'oublier, Madame Nakamura. Bon, je ne reviendrai pas parce qu'on en a beaucoup parlé. Mm-hmm. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'on nous la présente, non pas pour un talent personnel, j'en sais rien, des gens peuvent l'apprécier, je crois. C'est pas ce que je conteste, mais elle nous est présentée comme un symbole. Et de quel symbole est-elle le nom? Eh bien, c'est évidemment de la France plurielle, mais plus encore de la réinvention de la langue française. Parce qu'on nous dit, bien que je n'en crois rien, qu'elle chante en français. Or, c'est le français réinventé, c'est le français des temps présents, c'est le français délivré, justement, de la littérature, c'est le français délivré du français classique, si je peux me permettre, traditionnel, appelons-le comme on le veut. C'est un français réinventé sur le mode globiche, sur le mode des banlieues, sur le mode de la mondialisation. C'est un français complet. En fait, il y a une trace de français là-dedans. C'est la prochaine étape de la langue française. Marc dirait c'est pire encore que l'inclusif, et il n'aurait pas tort. Donc, c'est d'abord un symbole linguistique. Voilà ce que veut dire la langue française aujourd'hui, mise à jour, grand reset linguistique, disons-le ainsi. Elle va chanter Piaf, on l'avait dit, mais c'est une réappropriation de Piaf. C'est une forme d'appropriation culturelle, comme on dirait sur des campus américains. Donc, elle s'empare de Piaf pour vider Piaf, pour proposer une autre Piaf. Je pense qu'on peut s'y attendre. Mais allons plus loin. Qui portera la flamme? Deux figures se distinguent notamment, des figures qui sont liées à la mouvance LGBTQI2T+. Et donc ces deux figures sont des drag queens. Alors, en tant que tel, bon, qu'un homme qui décide de se déguiser en femme porte la flamme, pourquoi pas? Mais pas, surtout. Parce que, voilà les raisons, il y a un discours idéologique qui est associé à cela. Par exemple, il y a Martin Namias qui va porter, qui se fait connaître le nom de Miss Martini, qui va porter la flamme parmi d'autres, et dit qu'elle veut porter la flamme, elle veut porter la flamme, pour mettre de la joie et défendre une société inclusive. Et elle dit, il dit, je ne sais pas trop, c'est un honneur de pouvoir le faire et je pense que c'est important que le monde entier puisse voir qu'en France, on peut être une drag queen et porter la flamme olympique. Oui, c'est important qu'on puisse le voir en France, ça. C'est un symbole de l'ouverture du pays. Elle va, il va, et elle va plus loin en nous disant que ça permettra aussi de faire reculer l'extrême droite. C'est important de profiter des Jeux pour faire reculer l'extrême droite. Il faut s'emparer de toutes les circonstances pour faire reculer l'extrême droite. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Encore une fois, c'est le symbole, c'est un débat et une réflexion qui s'ouvre. C'est de l'inclusivité qui est montrée. On montre de l'inclusivité. Les Jeux permettent d'exposer de l'inclusivité. Et ça va plus loin. Parce que la question aujourd'hui des LGBTQ, de plus ça, va beaucoup plus loin parce que c'est la question des trans, notamment. Mmh. Que faire, justement, par exemple, d'un homme qui décide de s'identifier comme femme et qui veut désormais faire son sport dans les catégories féminines? D'un point de vue de l'équité olympique, on pourrait penser que c'est compliqué. À Tokyo, on s'en souvient, un homme qui s'identifie comme femme, donc une femme trans, avait pu participer au jeu, je pense, dans l'haltérophilie. Et bien là, ce que nous dit Miss Martini, une contribution essentielle à la vie de l'esprit, elle nous dit, parce que le comité olympique avait dit on va renvoyer ça aux différentes disciplines, parce qu'apparemment, il n'y a pas de consensus scientifique sur le rôle de la testostérone dans la performance dans l'ensemble des sports. Il n'y a pas de consensus scientifique, sachez-le. Réponse de Martin Namias, alias Miss Martini, ce n'est pas une réponse qui est OK. C'est une manière d'interdire les personnes trans de participer dans la catégorie qu'ils souhaitent. Et là, je poursuis, les valeurs des Jeux olympiques, elles sont magnifiques et universelles. On est pour le sport et l'inclusivité, tous ensemble. Parce qu'on dit plus tous, on dit plus toutes, on dit tous. C'est de l'écriture inclusive. La société évolue et je pense qu'il faut que le système olympique évolue en même temps. Donc là, on comprend que c'est un prétexte. Les Olympiques servent de prétexte à travers le discours de madame ou de monsieur comme pour imposer non seulement l'ouverture, comme on dit, mais la théorie du genre, dans sa forme la plus radicale, permet à des hommes de concurrencer, de participer à des compétitions féminines. On pourrait dire aussi, puisque la question des drag queens sont là, donc les drag queens, il y a aussi une dimension esthétique, c'est une manière de dire que la France, c'est quand même le pays qui avait consacré de la plus belle manière l'élégance féminine, la beauté féminine, dans l'esprit du monde, je crois, une très belle femme, c'est une très belle femme française. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a quelque chose d'original à cette espèce de substitution, ce remplacement de l'élégance, la beauté classique féminine par la figure de la drag queen. Ça dit quelque chose sur notre rapport à l'élégance. Mais la France, c'est pas que la beauté, c'est aussi la nourriture. Je puis en témoigner. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est que les Jeux olympiques ont aussi une réponse sur est-ce qu'on doit s'emparer des Jeux pour changer, justement, le rapport des Français à la gastronomie. Alors, c'était dans le Figaro il y a quelques jours, les Jeux sont une occasion unique de montrer qu'un autre modèle est possible en imposant un menu végétarien. Un autre modèle est possible et on va en profiter pour en finir avec l'alimentation carnée en France. Nous véganiserons la France dans le cadre de ces Olympiques. Et là, je le redis, les Jeux sont une occasion unique de montrer qu'un autre modèle est possible, nous dit Philippe Wurs, qui est responsable restauration au comité d'organisation des Jeux olympiques. Donc à la Concorde, pour le public, il n'y aura pas accès, le menu, pas de viande. Il faut rompre avec ça. Une autre tradition est possible, quitte à l'inventer. Alors là, je donne quelques citations, c'est toujours important de citer. On a voulu pousser le curseur le plus loin possible. Le plus loin possible. Donc pour rompre avec l'alimentation carnée. On veut montrer qu'on peut proposer des recettes gourmandes sans viande, sans être dans la caricature d'un remplacement de la viande. Cette décision est l'aboutissement de 4 ans de travail. 4 ans de travail pour être capable d'en finir avec l'alimentation carnée, avec la viande, dans le cadre des Jeux olympiques. C'est important parce qu'autrement dit, c'est un projet politique. C'est pas seulement un choix gastronomique. Il n'y a pas une option végétarienne pour ceux qui... Une option végétarienne pour ceux qui n'aiment pas, je sais pas moi, le poulet, la viande, le poisson, non. C'est la norme et il faut exclure. On aurait pu croire, encore une fois, que les Olympiques, c'était l'occasion de la mise en valeur de la gastronomie française, que c'est l'occasion d'une mise en valeur de la tradition gastronomique française. C'est plutôt l'occasion de son congédiement. Et là, on nous donne quelques exemples des recettes délicieuses qu'on nous proposera.
On a hâte.
Salade de pâtes, croque-monsieur végétarien, falafel de betterave, une quinzaine de recettes végétariennes, blablabla. Et là, ça se poursuit, ça j'adore. La saucisse végétale, oui, c'est tentant. La saucisse végétale a été travaillée sur une base de pommes, pommes de terre et pois. Et selon Stéphane Chicheri, qui est le chef exécutif de Sodexo Live, qui a promis des recettes gourmandes et roboratives. Ah, c'est intéressant. Donc là, vous voyez la suite. On change notre définition de la langue française, Madame Nakamura. On change notre définition de ce qu'est la beauté. La drag queen se substitue à la femme ancien modèle, hein, la femme vintage, la femme à l'ancienne, la femme qui était femme. Ensuite, non mais le monde évolue. Ensuite, la nourriture doit changer. Congédiement de la tradition gastronomique française, pas mise en option. Congédiement. Et le point d'aboutissement de tout ça, c'est que les jeux, effectivement, c'est un moment, j'y reviens, de véganisation, oui, de réinitialisation des codes culturels français. On s'empare d'un grand événement comme celui-là pour proposer une nouvelle image de ce que doit être la France.
Finalement, hier, on avait entendu Michel qui était plutôt optimiste. On vous sent un petit peu sévère à l'égard de ces Jeux Olympiques.
Je ne suis pas sévère, je les conspue. C'est pas la même chose.
Non.
Alors non, pour...
Enfin, j'étais critique aussi. Hein.
Oui, votre principale critique, c'était que les Jeux Paralympiques allaient avoir de la congestion.
Non, on a parlé de laïcité également, on a parlé de...
Non, je me souviens des Jeux Paralympiques.
On a parlé.
Mais non, donc le cœur des choses, je pense, c'est que ces grands événements aujourd'hui, et pas seulement les Jeux Paralympiques, les Jeux Olympiques, sont aujourd'hui l'occasion, chaque fois, d'imposer un agenda idéologique. Donc on nous présente ça comme des événements très prestigieux, on nous présente ça comme des événements formidables, on produit l'enthousiasme, il faut voir comment les médias veulent en sortir. C'est vraiment celui qui n'est pas heureux aujourd'hui devant les Jeux tels qu'ils se présentent à nous, c'est qu'il y a un esprit critique très fort. Mais sur le fond des choses, on est dans l'enthousiasme obligatoire, l'enthousiasme forcé, mais c'est prétexte. En fait, ces Jeux servent d'accélérateur en changement de civilisation, à tout le moins de changement de société, sans oublier, je me permets de le rappeler, le fait qu'on a effacé, évidemment, la croix de l'affiche des Jeux, pour être bien certain d'effacer la dernière trace du monde que l'on veut congédier. Donc, à tous ceux qui nous disent « soyez fiers, obligatoirement fiers », on peut répondre tout simplement ben, « non merci
». Merci, en tout cas. Mathieu, on voit que depuis que vous avez entendu l'édito d'hier de Vincent Roy sur l'écriture inclusive, le YEL, vous le maîtrisez très bien, le TOUST aussi. Oh,
je suis nord-américain, je maîtrise ça par cœur.
Franchement, bravo.
La catastrophe vient chez nous.
Bah merci.
Au plaisir.
Allez, on va parler un peu de politique maintenant avec vous, Michel, parce que vous voulez rebondir sur la nouvelle égérie des Insoumis, c'est Rima Hassan, qui incarne selon vous justement cette dérive communautariste clairement assumée aujourd'hui par le mouvement La France Insoumise. Et selon vous, finalement, le discours social maintenant est en train de passer résolument au second plan pour La France Insoumise.
Absolument, et je pense que Rima Hassan n'est pas arrivée là par hasard. Et elle n'est que un symbole de plus dans toute une stratégie qui remonte à bien plus loin et qui a été délibérément adoptée et mise en œuvre par Jean-Luc Mélenchon. Alors effectivement, c'est très étonnant parce que les Insoumis ont une tête de liste quand même fort honorable. Manon Aubry, qui a déjà été tête de liste il y a 5 ans, qui est adepte des punchlines, qui a été comme très assidue au Parlement européen. Elle a déposé un peu plus d'amendements que certains de ses rivaux. Et en fait, on la voit presque plus. Il y a une nouvelle tête de liste, en fait. La réalité, c'est qu'il y a une nouvelle tête de liste, c'est Mme Rima Hassan. Et comme vous le dites, c'est une nouvelle égérie. C'est la nouvelle égérie de la gauche insoumise, de l'extrême gauche. Et en fait, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que la question que moi je voudrais poser, c'est de quoi est-elle le symbole, en fait.
Et justement, comment vous expliquez ce phénomène, ce glissement, finalement?
Alors, il y a deux manières de le prendre. D'abord, n'est-elle qu'un phénomène médiatique? Elle est fait la une de tous les médias, elle est un bon client, j'ai envie de dire, pour les médias. Je ne pense pas. Je pense qu'évidemment, elle est très médiatique, mais elle est bien plus que cela. Alors, de quoi est-elle le symbole? De quoi est-elle le nom? En fait, je pense qu'il y a une mutation qui s'opère à travers son nom, qui est que pendant plus d'un siècle, l'extrême gauche, la gauche, était marxiste-socialiste. Ça remonte au Congrès de Tours, ça remonte à très loin, et Jean-Luc Mélenchon, en son temps, en était un des champions. Et en fait, LFI s'est tout simplement adapté. C'est adapté à son électorat. L'électorat de l'extrême gauche a complètement changé. Hier, c'était les ouvriers, c'était les travailleurs. Aujourd'hui, ce sont les Français issus de la diversité, les Français de confession musulmane et ou d'origine africaine. Et Jean-Luc Mélenchon, qui a déjà posé des jalons dans le passé de cette stratégie, de changer d'électorat prioritaire, a trouvé en Rima Hassan l'incarnation de cette stratégie. Pour dire les choses autrement, Rima Hassan est-elle l'égérie de la cause palestinienne? Je pense qu'elle l'est certainement, mais elle est beaucoup plus que cela. Et d'ailleurs, Je fais le pari que dans les mois qui viennent, elle ne va pas se contenter de parler uniquement de la Palestine et qu'elle va de plus en plus parler de la France. Et elle a commencé ces jours-ci, dans son tweet, comparant ce que fait Israël avec les Palestiniens à ce qu'a fait la France avec la guerre d'Algérie en Algérie. Et je pense qu'elle va de plus en plus parler aux Français sans passer par le détour de la Palestine. C'est en train de se passer sous nos yeux et je pense que ça va produire son effet. Bref, elle n'est pas le nom de la cause palestinienne, elle est le nom de ces nouveaux damnés de la terre communautarisés qui sont enfermés dans leur identité, j'ai envie de dire d'origine, soit religieuse, soit géographique, africaine, et c'est cela qui est en train de se passer. Mais, encore une fois, ça ne commence pas avec elle. Je pense que ça a commencé, alors ça remonte à loin, mais pour moi, le moment de bascule, là où Jean-Luc Mélenchon et ses partenaires se sont rendus compte que ça matchait, c'était cette fameuse manifestation du 10 novembre 2019, la marche contre l'islamophobie, contre la prétendue islamophobie, où des dizaines de milliers de Français ont défilé place de la République. On a entendu des Allahu Akbar et on a entendu Jean-Luc Mélenchon s'exprimer publiquement à côté d'eux. Là, il y a eu un moment de bascule et par lequel LFI a assumé son changement, j'ai envie de dire, d'électorat prioritaire. Et puis, il y a eu un moment absolument décisif, c'est l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé au premier tour de l'élection présidentielle? Alors, non seulement Jean-Luc Mélenchon a fait un score très élevé, 21,95%, il n'est quand même pas passé loin du second tour, mais surtout, comme l'ont montré plusieurs études, et notamment un sondage réalisé par Lacroix, je préfère bien citer mes sources, quelques semaines après l'élection présidentielle, il y a eu un vote musulman clairement assumé en faveur de Jean-Luc Mélenchon. 69% des Français de confession musulmane ont dit avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, effectivement, pour ceux qui, dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, avaient des doutes sur ce changement de stratégie historiquement très sociale et devenu très communautarisé, le vote de 2022 a été un déclencheur, une prise de conscience de ce que cela commençait à marcher et qu'il y avait un socle électoral extrêmement nombreux, parce que nous avons beaucoup nos concitoyens français de confession musulmane en France, qui adhéraient à Jean-Luc Mélenchon. J'ajoute que ce qui est terrible, et je le précise, c'est que, évidemment, de nombreux Français de confession musulmane n'adhèrent pas à Jean-Luc Mélenchon, n'adhèrent pas à cette stratégie, refusent d'être enfermés, comme c'est le cas de LFI, dans leur identité d'origine, refusent cette prise en otage et politique électorale. Et pire, considèrent, et je pense qu'ils ont raison, on pourrait citer des noms, des Radouane Kourak et d'autres qui sont très mobilisés pour cela, que effectivement Jean-Luc Mélenchon ne représente pas les Français de confession musulmane. Mais la réalité, c'est que la sociologie de la communauté musulmane de France va dans le sens de LFI. Et là aussi, toutes les études montrent que, notamment chez les jeunes de confession musulmane, il y a une adhésion à un islam rigoriste, à un islam identitaire, à un islam communautarisé, et qui trouve une traduction politique, ce qui n'était pas le cas dans le passé, parce qu'aucune femme, aucun homme politique n'assumait de s'adresser à ces Français de confession musulmane ou d'origine africaine radicalisée, comme le fait Jean-Luc Mélenchon. Mais là, maintenant, il y a un discours qui est proposé, et Rima Hassan n'est qu'une étape de plus, l'étape actuelle, de cette incarnation, encore une fois, de ces nouveaux damnés de la terre, qui hier étaient les ouvriers, les travailleurs, et qui aujourd'hui sont les Français issus de la diversité, et plutôt la branche radicalisée, comme le montrent toutes les études d'opinion.
On va parler dans un instant justement de l'abstention, savoir si la stratégie est vraiment payante, mais on s'interrompt un instant, le temps de la pause pub, et puis on se retrouve évidemment avec mes invités pour la suite de Face à l'info. Restez avec nous, à tout de suite. De retour dans Face à l'info et on continue avec vous justement Michel Taube sur la nouvelle stratégie de la France insoumise. Vous parliez justement qu'ils allaient draguer l'électorat des quartiers, mais on dit aussi que ce sont en général des quartiers où l'abstention est très forte. Est-ce que ça n'a pas posé problème?
Alors, de moins en moins. Et cette stratégie, elle est à l'œuvre depuis des années maintenant. Et il y a un symbole. Il y a un symbole, c'est la ville de Nanterre, que tout le monde connaît pour des raisons, on pourrait parler de mai 68, mais là, évidemment, je pense, et d'ailleurs, à ce titre, Nanterre est d'ailleurs un bon symbole, parce que Nanterre était le symbole de mai 68, question plus sociétale, sociale, etc. Et là, évidemment, avec ce qui s'est passé pour le jeune Naël et les deux policiers l'année dernière. À Nanterre, qu'est-ce qui s'est passé en 2022 à l'élection présidentielle? Il y a eu un taux de participation plus élevé que la moyenne nationale, de 1 ou 2 dixièmes de point. Abstention, 26,63%. Et Jean-Luc Mélenchon, il a fait quel score à Nanterre en 2022 au premier tour? Il a fait 47,04%. Donc si toute la France votait comme Nanterre, Jean-Luc Mélenchon serait président de la République. Et donc, en fait, pourquoi? Parce que les insoumis et certains de leurs alliés ont fait un énorme travail de labourage des banlieues, des quartiers, des populations de confession musulmane ou d'origine africaine. Il y a sur les réseaux sociaux des petites ruches de militants qui depuis des années font un travail considérable de persuasion des jeunes d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Et dans les quartiers, de nombreuses personnes font ce travail. Et donc, d'année en année, on voit effectivement qu'au niveau du taux de participation, les lignes bougent et que cette stratégie assumée de Jean-Luc Mélenchon, dans la durée, finit petit à petit par payer et qu'effectivement, dans les quartiers, on commence à voter beaucoup plus que dans le passé.
Oui, mais alors, il récupère cet électorat. Mais justement, avec cette stratégie, est-ce que le risque, c'est pas de perdre justement la base sociale et socialiste?
La bataille est déjà perdue. Qui sait pour qui votent aujourd'hui les travailleurs? Ils votent pour Marine Le Pen et le Rassemblement National. Pas uniquement, mais très largement. Et donc, je pense effectivement que l'autre raison pour laquelle LFI assume cette stratégie identitaire, c'est que la bataille sociale, elle est perdue. Aujourd'hui, l'électorat traditionnel classique qui votait communiste, qui votait socialiste, vote aujourd'hui pour la droite nationaliste. Nationaliste et à programme social, donc plus Marine Le Pen que par exemple Zemmour, qui avait un programme beaucoup plus libéral en 2022. Et donc, quelque part, ils sont en cohérence avec les évolutions profondes de la population française et du vote français, et donc ça corrobore cette stratégie.
Mais alors, il doit y avoir une bonne ambiance chez la France insoumise, parce que par exemple, François Ruffin, Manon Aubry ne sont pas forcément sur la même ligne.
C'est sûr, mais ce n'est pas eux qui tiennent les rênes du parti. Jean-Luc Mélenchon, avec plusieurs de ses alliés, assume complètement cette stratégie. Et je pense que c'est aussi, d'ailleurs, parce que oui, bien entendu, il y a des divisions internes, notamment sur la question de la cause des femmes, qui suscite énormément de remises en question de cette stratégie communautariste identitaire. Mais c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la NUPES est en grande difficulté et aura du mal à survivre. Au final, ce que je dois dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est le nouveau Castro Français issus de la diversité qui voudraient aller dans le sens d'une forme de radicalisation. Rima Hassal, c'est un petit peu la nouvelle Che Guevara. Et certains même pourraient peut-être se poser la question de savoir si elle n'aurait pas un avenir présidentiel si Jean-Luc Mélenchon décidait de ne pas se présenter en 2027.
Merci Michel Taube, une bonne question évidemment. On suivra ça, on va parler d'autre chose avec vous. Vincent, on va parler un petit peu de lecture, parce que le niveau culturel baisse, tous les chiffres de l'éducation nationale parlent d'eux-mêmes. Les jeunes français maîtrisent moins bien leur langue qu'avant. Alors est-ce que d'abord ce constat, il vaut aussi pour les écrivains? Nous étions, il y a quelques années, un grand pays littéraire, le pays des romanciers. Est-ce toujours le cas, cher Vincent?
Mais j'ai envie d'être désagréable d'entrée, votre question n'a pas d'objet, puisque le chef de l'État vous l'a dit, il n'y a pas de culture française. Je ne vais pas cesser de vous le marteler parce que je vois que le message n'est pas très correctement passé. Non mais imaginez, le président de la République française vous dit comme ça, en passant, qu'il n'y a pas de culture française. C'est le danger, vous voyez, du bavardage, parce que notre président est très bavard. Le bavardage conduit toujours à dire des imbécilités ou des absurdités. Bref, on ne vous parle plus que de transparence et de morale, de contrôle patrimonial et sexuel, de PMA, de GPA, de familles décomposées, recomposées, et parallèlement du retour en force du mariage d'amour, avec un H. Nous sommes cernés par les sentimentaux qui ont le défaut, soit dit par parenthèse, de devenir vite en général ressentimentaux. La propagande romantique est dans le fond incessante. Pendant ce temps-là, le chômage grimpe, la croissance tombe, la récession s'installe et le syndicat le plus puissant de France reste, demeure, celui du refoulement. Vous ne comprenez plus le monde tel qu'il va, ou plutôt tel qu'il ne tourne plus rond. Mais deux choses l'une, soit vous considérez que ce vieux pays est fini, usé, ruiné, soit à contrario, vous considérez que sans cesse, il est passionnant et renouvelé. En somme, qu'il n'a pas tout dit, c'est le pari. Mais un peu d'histoire pour eux, qu'on y voit un peu plus clair. Puisque l'on veut à toute force m'expliquer qu'il n'y a pas de culture française. Il s'avère tout de même que quelques aventuriers français, précisément, rapides et mobiles, des cavaliers de l'instant, des mercenaires de l'écart, tous légers et précis, ont inventé la langue du plaisir pour démontrer que leur corps est devenu philosophe. Alors évidemment, c'était à Paris, certes, mais vers 1730, à l'époque où la langue et le corps répondaient l'un de l'autre et réciproquement. Vous avez compris cette fête radicale et miraculeuse qui illumina l'Europe, que Nietzsche compare au miracle grec, est finie. Elle agonise sous la terreur. Il fallait donc se venger, punir cette gaieté, cette liberté inouïe de vivre qui pointait, voilà le drame, la comédie sociale, donc l'économie de l'amour. C'est fait et ça continue de se faire. Voyez par exemple comme le vieux fonds puritain hors d'âge utilise la parodie pornographique, laquelle vise, c'est tellement évident, l'évacuation de la sexualité. CQFD. Aujourd'hui comme hier, ça c'est une constante, le mauvais goût mène à la contre-excitation, on l'entretient, c'est du toc. Maintenant, c'est l'hiver au printemps, vous avez remarqué, en été, le chagrin, la mélancolie, l'ennui, la servitude, l'embarras, la lenteur, l'immobilité, les corps ont perdu l'esprit, c'est dangereux, parce que quand ça ne pense pas, ça ne jouit pas, c'est la loi. En France, donc, vous disais-je, le plaisir était la règle. Nous sommes toujours au XVIIIe siècle et il n'est peut-être pas inutile de rappeler que celui-ci est français par nature ou par essence, c'est selon. Tout se passe comme si notre langue avait été créée pour en arriver là, c'est-à-dire à ce point d'énergie, de combustion, d'incandescence, à cette électricité, à cette illumination. Le vocabulaire dessine à l'époque, une civilisation du plaisir qui fut la nôtre et qui se trouve curieusement, non pas derrière, mais devant nous. Je veux dire, nerveusement en avance, si vous préférez. Alors les aventuriers dont j'ai parlé, vous les connaissez. C'est Beaumarchais, c'est Champfort, c'est Laclos, c'est Crébillon, c'est le divin Marquis, c'est Dora, c'est Fougeray de Montbron, c'est Diderot, c'est Madame du Châtelet, c'est Pidensa de Mérobert, c'est Voltaire, c'est Mirabeau, c'est La Mettrie. Alors pardonnez-moi, tous ces gens n'ont pas existé. Ce que je viens de dire, vous pouvez l'oublier, puisque, je vous le répète, il n'y a pas de culture française.
Et justement, aujourd'hui, au moment où on se parle, où en est notre littérature ?
C'est très simple, elle est dans la plainte. Le gémissement, encore la plainte, à nouveau la plainte. Alors monsieur Édouard Louis se plaint de son père, de sa mère, bientôt de sa sœur ou de son frère. Houellebecq s'acharne à décrire l'effondrement du sexe français. Et Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, s'il vous plaît, fait du ressentiment social son fonds de commerce. Pour prendre le pouls d'une société, il faut lire les écrivains qu'elle recommande. Qu'elle promotionne. C'est beaucoup plus puissant que de lire les journaux. Avec les écrivains, vous êtes renseigné en profondeur. Freud, d'ailleurs, a dit sur ce point une chose à peu près semblable à celle-ci. Au fond, quelle serait aujourd'hui l'intrigue d'un roman français bankable, d'un roman vendeur, une histoire que les libraires et les critiques adoreraient. Je vous campe le décor, hein. Surtout pas de vice sérieux. Un héros d'origine modeste, très important, qui vivrait en province, encore plus important, erre dans un centre commercial, ça c'est du Houellebecq, à la recherche de chaleur humaine. Il est obèse, il sue, il doit tout avaler jusqu'à l'excès, jusqu'au dégoût. Mais heureusement, depuis qu'il va à la piscine, il a trouvé un sens à sa vie. Myriam est à l'accueil et c'est un ange. Il veut la conquérir, mais pour ça il va devoir renoncer à ses démons qui s'emparent de lui dans les pires moments. Tous les ingrédients sont réunis, on imprime, merci. En vérité, vous savez, la société a toujours détesté la littérature. Le grand Flaubert disait qu'il croyait à l'exécration inconsciente du style. Pourquoi disait-il cela ? Parce qu'il pensait que le style, et il avait raison d'ailleurs, fonctionne comme un contre-pouvoir. Or, les pouvoirs détestent les contre-pouvoirs. Alors que le pouvoir, le nôtre, aujourd'hui, se rassure, le style est rare, de plus en plus rare. Rien à craindre, c'est plutôt l'absence de style qui l'emporte aujourd'hui.
Mais alors, qu'est-ce que la chose littéraire ?
Ah ben voilà, tout peut revenir finalement à cette question centrale. Dans un petit essai bouillant, publié la première fois en 1839 dans la Revue des Deux Mondes, et heureusement réédité aujourd'hui, Sainte-Beuve répond « l'ensemble des productions d'imagination et d'art ». Puis il ajoute « la chose littéraire semble de plus en plus compromise et par sa faute ». Son diagnostic est d'une stupéfiante actualité. L'imagination est malade, elle est embarrassée, attaquée, perquisitionnée. Mais par qui ? Et dans quel dessin ? On écoute. L'industrie pénètre dans le rêve et le fait à son image. tout en se faisant fantastique comme lui. Voilà la littérature industrielle désignée, pointée, démasquée. Elle procède par débordement. Le niveau du mauvais gagne et monte. Il semble qu'on n'ait pas affaire à un fâcheux accident, au simple coup de grêle d'une saison moins heureuse, mais à un résultat général tenant à des causes profondes et qui doit plutôt s'augmenter. Quelqu'un dira plus tard que la fausse monnaie a chassé la bonne. Vous savez, comme il y a la haute couture et le prêt-à-porter, il y a la littérature et le prêt-à-penser, soit la littérature industrielle. Au fond, et pour résumer, pour compresser, il n'y a bien que les dictateurs pour faire croire que l'art est démocratique. Bref, ce qui me captive, c'est que Sainte-Beuve parle depuis le 19e siècle, plombé, fermé. Il voit la mauvaise vague qui déferle et qu'aucune digue ne contient. Il ouvre un débat, finalement neuf, terriblement moderne, celui de la validité d'une culture de masse, débat qui n'avait pas cours, par exemple, un siècle plus tôt, dont j'ai parlé, au XVIIIe siècle, et dont Barthes, par exemple, s'est chargé un siècle plus tard. Il entend un cri de misère en style de haute banque et avec accompagnement d'espèces sonnantes. Parce que qu'est-ce qui caractérise la littérature industrielle? C'est la naïveté et souvent l'audace de sa requête d'être nécessiteuse et de passer en demande toutes les bornes du nécessaire, de se mêler avec une passion effrénée de la gloire, ou plutôt de la célébrité, de s'amalgamer intimement avec l'orgueil littéraire. C'est de se rencontrer là où on la supposerait et où on l'excuse le moins, dans les branches les plus fleuries de l'imagination, dans celles qui sembleraient tenir aux parties les plus délicates et les plus fines du talent. Le plus fort, c'est qu'elle règne presque sans partage, sans contradiction, cette littérature industrieuse. Elle réussit à atomiser la police extérieure, c'est-à-dire la critique, laquelle est de connivence en réalité avec le démon de la propriété littéraire qui monte les têtes et paraît constituer chez quelques-uns une vraie maladie pindarique. Ça, c'est pour faire un clin d'œil à l'édito de Mathieu sur les Jeux Olympiques, puisque Pindare est l'auteur des Olympiques. En effet, comme l'observe l'auteur des Causeries des Lundis, le même Sainte-Beuve, chacun se pousse du col, se met à évaluer son propre génie en somme ronde. Le jet de chaque orgueil retombe en puits d'or. Si vous préférez, le climat, dont on dit qu'il se réchauffe par période, mais enfin disons qu'il se réchauffe, est toujours au réchauffement des égaux. C'est une loi de la nature. Mais si on poursuit, il faut s'intéresser à la presse, car elle est complice et elle est le poudreux boulevard de la littérature du jour. La démocratie littéraire a un prix, celui, j'y reviens, comme pour la société, celui du mépris de la littérature. Tout le monde, au moins une fois dans sa vie, aura eu sa page, son discours, son prospectus, son toast sera auteur. De là à faire un feuilleton, il n'y a qu'un pas. Chacun pourra écrire pour vivre, c'est le mobile, et la publicité vantera son œuvre. Afin d'avoir en caisse le profit d'une annonce payée par un libraire, les journaux ont de la complaisance pour les livres annoncés. Le système, en quelque sorte, sert le système. Le constat de Sainte-Beuve, de ce point de vue, est implacable. De nos jours, le bas-fond remonte sans cesse et devient vite le niveau commun, le reste s'écroulant ou s'abaissant. Le mal, sans doute, ne date pas d'aujourd'hui, mais tout est dans la mesure. Et aujourd'hui, on la comble, la mesure. Cette littérature industrielle, de la littérature industrielle, c'est le titre exact de Sainte-Beuve, est un texte lucide de combat qui vise à travers le temps ce que Debord, le situationniste, dans les années 60, appelait les salariés surmenés du vide.
Merci à vous Vincent Roy. On va parler maintenant du jeudi de l'Ascension, puisque vous le savez, ce jour est férié en France. Mais justement, pour quelle raison, Charlotte?
Alors, les jours fériés, de manière générale, racontent quand même beaucoup de notre histoire. À chaque fois qu'on a un jour férié, je pense que l'Ascension, si on faisait un micro-trottoir, on aurait un peu peur également.
Sans doute.
Voilà, il y a une confusion sur plusieurs jours. Noël, Pâques, à la limite, je pense qu'on pourrait s'en sortir. Mais l'Ascension, c'est moins sûr. Alors, ça fait partie des jours fériés à caractère religieux, parce qu'il y en a beaucoup en France, mais il y en a aussi qui sont historiques. Ça dessine plusieurs périodes qui se sont relayées. Alors, l'Ascension, c'est toujours un jeudi, ça tout le monde l'aura compris. Mais la date change pour une raison simple, c'est que c'est 40 jours pile après Pâques. Qui, elle, la date de Pâques est fixée depuis 325, un concile de Nicée, après la première pleine lune, du printemps, donc c'est le dimanche qui suit, et donc 40 jours après, vous avez Pâques, et 50 jours, vous avez l'Ascension, pardon, et 50 jours après, vous avez la Pentecôte, et tout cela vient de l'Évangile, tout simplement. 40 jours, je vous le cite, 40 jours après Pâques, Jésus apparaît une dernière fois à ses disciples et leur annonce, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Fête de la Pentecôte, alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Une fois ces mots prononcés, Jésus monte au ciel, il fait donc son ascension. Donc c'est vraiment par rapport au texte religieux, tout simplement, que se fait cette fête de l'ascension. Voilà quelle est la fête du jour qui est chômée aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous ne travaillons pas. Et je précise que ce qui ressemble ce soir à un cours de catéchisme relève de la donnée culturelle. Parce que si tout le monde ne travaille pas aujourd'hui, ce serait bien au minimum qu'il y ait la curiosité pour savoir pourquoi. Et il y a 11 jours fériés aujourd'hui en France et tous racontent en réalité une histoire qui est accessoirement la nôtre.
Oui, mais justement, vous le disiez, certains jours fériés sont religieux. Pas tous, quels sont ces jours fériés et en fait, comment ils ont été décidés?
Avant de les examiner un à un, parce que je pense que quand même les gens les connaissent plus ou moins, mais il faut voir l'évolution du rapport aux jours fériés, parce que Mathieu se moquerait facilement de nous, mais on a fait de gros progrès sur le nombre de jours fériés en France. Parce que dans l'Ancien Régime, il y avait des dizaines et des dizaines de jours religieux, de fêtes religieuses qui étaient chômées sur décision de l'Église et qui ponctuent en réalité le calendrier. Et alors là, tout le monde s'y reconnaîtra, nous avons énormément d'expressions qui renvoient d'un jour à l'autre, de la fête d'un saint à un autre, le rapport entre la météo et le saint du jour par exemple. Donc ça ponctuait vraiment l'année et ces jours fériés ponctuaient de la même manière que les cloches ponctuent encore nos journées et les heures qui tournent. Mais dès le XVIIe siècle, la hiérarchie catholique, pour des raisons de préoccupation économique, réduit le nombre de jours chômés de manière obligatoire dans l'année. Parce que l'Église, même en France, encadre la plupart des fêtes. Le reste sont encadrés par les confréries, les corporations de métiers ou les sociétés de jeunesse. Mais globalement, ce sont des fêtes extrêmement populaires qui viennent de la base. C'est parce qu'elles sont populaires qu'elles continuent à exister. L'Église les encadre parce que le ressort est souvent religieux. Mais ça n'est pas l'État. À partir du XVIIe siècle, les autorités commencent à se préoccuper de ces fêtes qui restent malgré tout populaire, et la révolution, à partir de la révolution, qui a deux préoccupations à ce moment-là, c'est à la fois déchristianiser la société elle-même et mettre en scène le nouvel ordre culturel, on pourrait dire, et donc imposer les siennes. On parle évidemment de la fête de la Fédération. Je renvoie moi aussi à la chronique de Mathieu qui nous parlait du culte de l'être suprême. C'était évidemment une volonté de remplacement culturel, et c'est nettement plus tard au 19e et au 20e siècle que l'État se mêle réellement de ces fêtes populaires en voulant non seulement les fixer et les organiser. Et au 19e siècle, la notion de fête légale se développe en France, et c'est une loi qui est votée en 1802 qui statue qu'aucune fête, à l'exception du dimanche, qui est chômé, ne peut être fixé sans la permission du gouvernement. C'est très nouveau. Et c'est sous Napoléon, au moment du Concordat, donc entre Napoléon et la papauté, que le nombre de fêtes religieuses est ramené à 4. Il y en a 4 qui sont fixes et chômées. Vous avez Noël, la Toussaint, l'Ascension et l'Assomption, qui est le 15 août. La même année, on y ajoute les fêtes civiles, qu'on cale sur des fêtes qui existent déjà, pour éviter de rajouter des fêtes aux fêtes. Et là, encore une fois, pour des raisons économiques. Napoléon, voyant la situation économique de la France, dit qu'il faut réduire le nombre de jours chômés. Et voilà comment il les définit. Et plus tard, dans les années qui suivent, on a le 14 juillet qui devient férié en 1880, totalement férié. 1886, on a les lundis de Pâques et de Pentecôte. Le 11 novembre, évidemment, plus tard, en 1922. Et le 1er mai, en 1947.
Et justement, maintenant qu'on a compris comment ils ont évolué, maintenant, on en est où? Quels sont les jours fériés qui ont été entérinés et qu'est-ce qu'ils représentent, qu'est-ce qu'ils symbolisent?
Alors, à date fixe, ils sont essentiellement historiques, ces jours fériés. On a le jour de l'an. Alors, le jour de l'an, c'était alors typiquement la tradition populaire. On fêtait la nouvelle année, l'entrée dans la nouvelle année, et on ne travaillait pas ce jour-là. C'est en 1810 que l'État consacre finalement une pratique extrêmement répandue. Le 1er mai, alors là, c'est comme quoi l'américanisation de nos mœurs ne date pas d'hier, parce que le 1er mai, initialement, c'est un mouvement de grève américain qui se tient en 1886, qui réclame à l'époque la journée de 8 heures. Et c'est le seul jour férié aujourd'hui. Alors, c'est férié dans énormément de pays, résultat, mais c'est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé en même temps en France. Vous avez le 8 mai. Alors, le 8 mai, évidemment, c'est bien plus tard. C'est la victoire des Alliés, la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Le jour est déclaré. Alors, ça, c'est marrant parce que le jour est déclaré férié en 1953. Il est supprimé par De Gaulle en 1959 et Giscard d'Estaing, quelques années plus tard, supprime non seulement le jour férié, enfin ne le rétablit pas, mais la commémoration également par souci de réconciliation avec les Allemands. Il faudra attendre 1981 pour que Mitterrand rétablisse et la commémoration et le jour chômé à ce moment-là. Et en orléanaise que je suis, je précise que le 8 mai, c'est également la libération d'Orléans par Jeanne d'Arc. Je vais faire la parenthèse, mais c'est une très grande fête aussi. Le 14 juillet, alors là, le 14 juillet, c'est vraiment l'incarnation de la bataille culturel entre l'ancien régime et le nouveau. À l'époque, c'est le 15 août qui est la fête nationale, jour de l'Assomption de la Vierge, et le 14 juillet, ça symbolise. Alors tout le monde a en tête la Bastille, mais c'est finalement en 1790, soit un an plus tard, qu'il y a la fête de la Fédération, et c'est à partir du moment de la fête de la Fédération que le jour devient fête nationale et qu'il devient férié. Et le 15 août, je vous en parlais à l'instant, c'est l'Assomption, donc c'est cette fois-ci le jour de la montée au ciel de la Sainte Vierge, et il est férié depuis 1638, quand Louis XIII confie le royaume de France à la Vierge pour remercier de la grossesse de sa femme. Et ça n'est plus une fête nationale, mais entre-temps, Napoléon l'a rétabli comme jour férié. Pourquoi ? Parce qu'on a eu de la chance, finalement, dans la continuité de l'histoire, c'était le jour de l'anniversaire de Napoléon, qu'il a dit on va rétablir le 15 août, parce que c'était une fête extrêmement populaire également, et on fêtera l'empereur au passage, ce sera gagné. Donc aujourd'hui, on fête moins l'empereur que la Sainte Vierge, mais bon, c'est férié quand même.
Ça comparait.
Le 1er novembre, nous avons la Toussaint. Alors la Toussaint, là, c'est pareil, on pense très souvent que c'est la fête des morts, et d'ailleurs les Français vont très naturellement fleurir les tombes. En réalité, la fête des morts, c'est le 2 novembre. Le 1er novembre, c'est la Toussaint, la fête de tous les saints, et là, ça date du Concordat également. Le 11 novembre, évidemment, la capitulation allemande de 1918. Le 25 décembre, Noël, on en a parlé. Et ensuite, il y a les dates variables. Et alors là, il y a le lundi de Pâques, la Pentecôte et l'Assomption. Donc je vous le disais, lundi de Pâques et de la Pentecôte. Alors là, c'est plus étonnant, parce qu'on se dit Pâques et la Pentecôte tombent un dimanche. Pourquoi le lundi ? Eh bien, en réalité, au Moyen-Âge, toute la semaine qui suivait ces deux fêtes était chômée. Pourquoi ? Parce qu'on appelait ça l'octave de Pâques et de la Pentecôte. Et les fidèles allaient en pèlerinage, souvent pour rendre grâce pour les deux fêtes qui venaient de se passer. Et Napoléon a dit une semaine, c'est un peu long pour ses préoccupations. Donc on va garder le lundi en signe de nos anciens pèlerinages. Voilà.
Merci. Oui, Michel, je voyais réagir.
En tant qu'Alsacien, je dois ajouter que...
Ah oui, bah là, c'est encore une autre histoire. Là.
Non, on a deux jours fériés de plus, qui sont la Saint-Sylvestre, le 26 décembre, et le vendredi de Pâques.
Exactement. Enfin, le vendredi saint.
Et le vendredi saint, et qui est un héritage, évidemment, de la période où l'Alsace-Moselle était sous occupation allemande.
Exactement.
Et il y a quelque chose d'intéressant aussi dans ce que vous disiez, Charlotte, c'est que sur l'évolution des jours fériés, Vincent Roy, on a vu aussi parfois le président de la République dire qu'il y avait trop de commémorations, trop de jours fériés. Il disait ça en 2017, qu'il fallait ne pas les faire. Et finalement, on voit qu'en fait, ils n'osent pas s'attaquer. C'est-à-dire que même si les présidents se disent c'est peut-être trop de commémorations, en fait, personne n'ose être celui qui dit finalement le 11 novembre ou le 8 mai, on ne va plus les célébrer.
Ben non, évidemment. Évidemment, il ne faut pas toucher à ça. Il sait très bien que c'est de la matière totalement inflammable. Alors, alors ça fait encore partie, je vous en parlais tout à l'heure, de son bavardage. Voilà, on lance des choses. Mais il a toujours l'habitude de lancer beaucoup de choses. Vous avez vu, là, il a lancé les pères qui doivent avoir
un devoir de visite.
Ah bah oui, c'est l'inverse. Le devoir de visite, donc il lance ça. Bon, c'est pratiquement pas réalisable. On envoie des soldats en Ukraine. Il sait très bien que ça se passera pas. Mais c'est pas grave. On balance ça, on met ça sur le tapis. Et voilà, et les jours fériés, même chose. Surtout, on touche pas, parce qu'on sent bien qu'encore une fois, c'est beaucoup trop inflammable et c'est absolument contre-productif pour lui, puisque alors là, évidemment, si vous enlevez des jours fériés aux Français...
Si vous dites aux Français qu'ils vont travailler deux ou trois jours de plus dans l'année...
Pas possible, ça.
Vous allez voir. On va parler justement maintenant d'Europe avec vous, Mathieu, puisque dans un mois, ce sont donc les élections européennes, mais quel rapport justement les Français entretiennent avec l'Europe ? Eh bien, c'est le thème de votre second édito.
Alors, c'est dans le Figaro ce matin, un sondage très intéressant qui nous dit l'état, appelons ça, de la conscience collective par rapport à l'Europe. On pourrait croire, vu le martèlement médiatique, politique, qui nous répète sans cesse que l'Europe est le seul avenir possible des nations d'Europe, c'est-à-dire l'Europe est le cadre rationnel, l'Europe est le cadre de l'avenir, l'Europe est le cadre de la puissance, et la nation, c'est le cadre, dis-je, de l'impuissance. L'impuissance institutionnalisée, l'unité politique trop petite, l'unité politique décalée, le résidu de la cité grecque dans les temps présents. On pourrait croire que les Français finiraient par y adhérer, finiraient par y croire, finiraient par se rallier à ce discours que l'on veut obligatoire. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On leur demande, êtes-vous en priorité français, en priorité européen ? 91% d'entre eux se sentent en priorité français, contre 8% en priorité européen. Alors, si j'étais méchant, je dirais que ça doit correspondre à la proportion de fonctionnaires européens en France, mais probablement que ça correspond en fait à la proportion des élites mondialisées qui se reconnaissent assez spontanément comme européistes d'abord. Mais 91%, 8%, au niveau de l'histoire, la construction du sentiment européen en tant que sentiment politique. On parle pas, bien qu'on y reviendra dans un instant, du sentiment civilisationnel, c'est autre chose. Mais lorsqu'on demande aux Français de s'inscrire, leur cadre d'inscription naturelle, c'est la nation, tout simplement. C'en est même assez brutal, si je peux me permettre, parce que ça vient démentir mais le discours à répétition imposé depuis plusieurs années, et plus encore sous les deux présents quinquennats. Ensuite, 86% sont fiers d'être français. Ils ne rejettent pas pour autant l'identité européenne. 60% s'en disent tout à fait fiers. Et le primat du national sur le sentiment national, sur le sentiment européen, c'est vrai chez à peu près tout le monde, sauf presque équilibre chez les gens de Renaissance, et notamment chez les écolos. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, les écolos, davantage même que la France insoumise, quelquefois, représentent la pointe avancée de la modernité fière d'elle-même. C'est-à-dire la pointe avancée du progressisme revendiqué. Et on le note, et j'en arrive, je le dirai dans un instant, mais on note tout de suite, les écolos, d'ailleurs, vous noterez, ils investissent comme lieu de pouvoir principalement le municipal, ou le niveau européen, bien que ça c'est surtout le lieu de l'extrême-centre, le niveau national, ils n'ont pas l'habitude de s'y investir, peut-être parce que les Français n'en veulent pas à ce niveau, mais à tout le moins, leur lieu où ils aiment exercer le pouvoir, c'est le municipal. Donc j'y reviens. Première, des différentes choses qu'on peut noter, le premier élément, c'est la persistance du sentiment national. Pourquoi? Parce que la nation n'est pas que sentiment. Ça, c'est la chose qu'on peine à comprendre aujourd'hui. Les identités ne sont pas des entités flottantes sur lesquelles on peut agir par pur effet de manipulation symbolique ou de manipulation psychologique. Les identités ont une densité, je dis un grand mot, mais ontologique. C'est-à-dire qu'il y a une densité réelle, il y a un ancrage dans le réel. Un peuple n'est pas une construction sociale, artificielle, que l'on peut monter, démonter, élargir, déconstruire selon les désirs du moment. Un peuple a un enracinement identitaire profond qui s'inscrit dans la durée de l'histoire, ce qui fait, soit dit en passant, ce qui fait qu'il y a des peuples qui, dans l'histoire, peuvent perdre leur état et le retrouver. Tous ceux qui ont une définition strictement juridique ou administrative de la nationalité sont des aveugles, en plus, d'avoir des incultes, soyons sérieux. Les Polonais n'auraient jamais retrouvé leur indépendance, eux qui l'ont perdue si souvent, eux qui ont été si souvent divisés, si la conscience culturelle et historique du peuple polonais n'était pas antérieure et ne transcendait pas les formes politiques spécifiques dans lesquelles ils étaient condamnés. Et il y a une illusion républicaine, même pas républicaine, mais républicaniste en France, qui veut que la nation soit strictement territoire, administration et droit. Ce que l'on constate, c'est qu'il existe une telle chose qu'un peuple français, un peuple historique français, et ce peuple pourrait un jour devenir minoritaire chez lui. Et probablement que dans le sentiment national tel que revendiqué aujourd'hui, ça correspond aussi à une angoisse identitaire telle qu'on peut la percevoir. Le deuxième élément, j'y reviens, c'est chez les écolos et chez nos amis de la Macronie, c'est un lieu de projection différent. Les macronistes, fondamentalement, et plus que les macronistes, appelons ça l'extrême-centre, se projettent au niveau européen. Parce que le lieu du pouvoir à exercer, le lieu de la prochaine étape historique, c'est l'Europe. Pour les écolos, le lieu du pouvoir véritable, c'est la ville, la municipalité. D'ailleurs, ils contrôlent plusieurs villes et ça leur permet de contrôler des choses assez intéressantes. Le niveau national, c'est le niveau administratif, bureaucratique souvent. La ville, c'est très concret. La ville, c'est très, très concret et ça permet d'imposer ses propres mœurs, ça permet d'imposer ses propres codes, ça permet d'imposer une conception de la culture et de ce point de vue, on pourrait dire que chaque force politique se situe au niveau qu'elle préfère. Et ensuite, la référence à la civilisation européenne. Ça, je pense que c'est assez important de le mentionner. Adhérer à l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si vous demandez à Marion Maréchal, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella aussi probablement, le niveau... L'Europe, ils sont profondément européens, de civilisation, de culture. La nation française est profondément européenne, tout comme la nation lettonne est profondément européenne, mais c'est une Europe de civilisation. Et le grand point d'interrogation des temps présents, c'est de savoir si l'Europe civilisation recoupe l'Europe techno-bureaucratique qui s'est imposée depuis un temps. Je me permets de faire un petit ajout, un truc que j'ai oublié de dire avec... Je m'en veux pourquoi les insoumis, par ailleurs, eux, quand je disais les écolos au niveau municipal, l'extrême-centre niveau européen. Pour les insoumis, pourquoi ils préfèrent le niveau national? Ça correspond à la mythologie révolutionnaire. C'est-à-dire, c'est la mythologie révolutionnaire qu'ils veulent poursuivre, reprendre, et ainsi de suite. Donc, eux se situent au niveau national. C'est une forme de populisme à leur manière. Donc, quoi qu'il en soit, le sentiment est indexé ensuite sur une forme politique privilégiée. Chose certaine, les Français, massivement, lorsqu'on les consulte, préfèrent encore Paris à Bruxelles.
Mais justement, est-ce que de tels chiffres ne devraient pas inquiéter le président de la République?
Théoriquement, oui. Dans un contexte démocratique classique, oui. Mais si, comme on le croit, comme on le soutient souvent, comme on l'affirme, la seule conviction véritable d'Emmanuel Macron, je sais pas qu'il n'y a pas plusieurs convictions, mais la conviction qui charpente son univers mental, c'est l'européisme, si on le croit, eh bien, ça s'accouple chez lui à une autre thèse qui est assez fréquente, c'est les idées révélées. Hein, c'est-à-dire que ça se vit presque comme une révélation, c'est-à-dire je suis le porteur de la prochaine étape de l'histoire humaine, et quant à vous, vous êtes en retard, mais vous nous rejoindrez, mais ça s'accouple à la prise de conscience qu'on appellerait les minorités éclairées, hein, les minorités éclairées qui font l'histoire. Et dès lors, moins la population veut de la construction européenne, plus il faut accélérer la construction européenne. Moins on veut d'Europe, plus il faut d'Europe, parce que ce décalage, en fait, témoigne d'une forme de la persistance de schèmes mentaux retardataires dans une population déphasée qui n'a pas compris quelle était la juste échelle de l'histoire aujourd'hui. Donc, les avant-gardes créatrices, les avant-gardes fécondes, les avant-gardes qui regardent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux comme forme le bois mort de l'humanité, pour reprendre une formule que j'affectionne. Donc, je pense qu'il y a cette conscience de l'avant-garde éclairée chez le président de la République. Et dès lors, ce 90% ne se présente pas à lui à la manière d'une volonté populaire dont on doit tenir compte, mais d'un problème à résoudre. Il y parvient d'autant plus qu'à cette vérité révélée qui se présente à lui, il y a un autre élément qui est important, c'est qu'il y a un appareil bureaucratique l'appareil bureaucratique européiste, la nomenclatura européiste, elle a un pouvoir central aujourd'hui. Peu importe en quel que soit le résultat des élections, eh bien, elle continue de travailler à intégrer de force, à intégrer juridiquement, intégrer administrativement, intégrer économiquement, intégrer militairement. C'est une machine qui pousse l'intégration, même si on n'en parle pas. Donc, le débat se porte sur différentes choses, l'arme nucléaire, pas l'arme nucléaire. Pendant ce temps, la société française est disloquée en quelque sorte parce que reprogrammée dans tous les domaines de sa vie collective dans la logique européenne. Et de ce point de vue, on retrouve ici la passion de nos amis européistes pour l'immigration massive. Madame Ylva Johansson, dont on aime parler ici, ex-communiste suédoise, qui est l'équivalent de la ministre de l'Intérieur à l'Europe, et qui, pour elle, l'immigration massive n'est pas un problème, mais c'est un projet. C'est un projet pourquoi? Parce que si on parvient à transformer la population européenne, on va avoir une population nouvelle qui n'aura pas ces vieils enracinements dans les cultures européennes qui résistent à l'empire européiste. Et dès lors, ces populations nouvelles seraient plus malléables et prêtes à embrasser le drapeau européen.
Mais justement, une union qui est aussi peu plébiscitée par ceux qui y vivent, est-ce qu'elle ne risque pas de se décomposer sous ces contradictions? Et surtout, est-ce que finalement l'Union européenne peut tomber?
Elle peut tomber, oui, je crois. Mais en fait, tout peut tomber, on se le disait hier, hein, c'est-à-dire Rome est tombée, tout tombera. Bon, tenons-le pour acquis. À tout le moins, les formes politiques humaines seront périmées un jour. Cela dit, pour les temps présents, il y a une chose, bon, on a chacun ses petites passions dans la vie. Une des miennes, c'est faire l'histoire des États qui ne sont plus et des États qui naissent. Donc, faites la liste des États, notamment, qui sont disparus en Europe depuis un siècle. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais l'Empire austro-hongrois, par exemple. Ce n'est pas un détail. Ensuite, l'Union soviétique, bien évidemment. Aussi la Tchécoslovaquie, aussi la Yougoslavie. Qu'est-ce que toutes ces entités avaient en commun? Il s'agissait d'entités supranationales qui prétendaient incarner leur légitimité, ne tenait pas de la nation, ne tenait pas de l'histoire, tenait, sauf l'Empire austro-hongrois qui était sur une autre logique, c'était vraiment une légitimité archaïque, traditionnelle, une légitimité qui chaque fois dit « nous sommes la prochaine étape dans l'histoire de l'humanité, nous sommes porteurs d'un principe, le socialisme dans le cas de la Yougoslavie, le socialisme aussi dans le cas de l'URSS, une forme de post-nationalisme original dans le cas de la Tchécoslovaquie, des États qui disaient « nous avons dépassé la nation, nous sommes la prochaine étape ». Et qu'est-ce qu'on voit chaque fois? Mais ces entités post-nationales finissent par se fracturer, finissent par se décomposer. Les États multinationaux sont faits pour mourir. Les États plurinationaux sont faits pour se décomposer sous leurs contradictions. Alors là, on arrive à l'URSS. On arrive à l'Union européenne, dis-je. C'est même pas un mauvais coup sur cela. C'était même pas malveillant.
Lapsus révélateur.
Mais c'est absolument terriblement révélateur. Mais c'est la même chose. L'Union européenne, dis-je, est une union idéologique avant d'être historique. Si elle était historique, elle ne chercherait pas à programmer une substitution de population. Premier élément. Et ensuite, elle se présente comme la prochaine étape dans l'histoire de l'humanité. C'est important. L'Union européenne nous dit que nous sommes pas seulement un État civilisationnel comme peut l'être la Chine, comme peut l'être l'Inde. Non, nous sommes la prochaine étape dans l'histoire humaine. Nous sommes le lieu du dépassement des anciennes appartenances. C'est une technostructure antidémocratique, quel que soit le gouvernement élu. le pouvoir se maintient, et plus encore, n'oublions jamais que le pouvoir se donne le droit de sermonner, le pouvoir européen, de sermonner les États, les peuples qui voteraient mal. Donc c'est la doctrine de la souveraineté limitée, comme on disait autrefois au temps de Moscou. C'est la répression des nationalités aussi. Les nationalités, c'est dangereux parce que ça, c'est une appartenance, je le disais, qui résiste à sa reprogrammation européiste. Alors au terme de cela, je me demandais à qui je voulais comparer Mme von der Leyen. Est-ce que c'est Brejnev ou c'est Gromyko? Brejnev, c'est l'incarnation, en fait, du leader soviétique au temps de la mutation sous le signe de l'URSS technostructurelle. L'URSS qui avait perdu l'élan messianique, l'URSS qui était absolument bureaucratique. Ou est-ce que c'est Gromyko qui précède Gorbatchev? Et qu'est-ce qui arrive avec Gorbatchev? On le sait, c'est la décomposition de l'Union européenne. De ce point de vue, le 9 juin, cela dit...
De l'Union soviétique.
Ça va bien aujourd'hui. Excusez-moi. C'est la décomposition de l'Union soviétique. Merci. Et de ce point de vue, le 9 juin peut se présenter comme la première étape d'un tremblement de terre politique. Je ne fais pas de prophétie, je ne fais pas de prévision, mais ça va être la première étape d'une décomposition. Si l'histoire nous enseigne quelque chose, il se pourrait que cette décomposition aille vite ensuite.
Merci beaucoup Mathieu Bocoté, merci Michel Taube, Charlotte Dornelas et Vincent Roy de vos éditos d'En Face à l'Info. Tout de suite, vous retrouvez évidemment Pascal Praud pour l'heure des Pro 2 et dès lundi, vous retrouverez Christine Kelly à la présentation de Face à l'Info.